Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission de débat Le Grand Dialogue. Retrait de l'aménagement, tension autour du processus dans la région de Kidal, c'est le thème de notre émission. Et comme vous le savez, le retrait de l'aménagement de ces emprises se poursuit. La mission onusienne a libéré 7 des 12 emprises qu'elle occupait. L'armée a dénoncé cette semaine le retrait précipité de l'aménagement de la ville d'Aguelhok sans avoir rétrocédé son camp au Fama. Selon plusieurs sources, l'aménagement aurait également annoncé le retrait de son personnel militaire et civil de la ville de Kidal. Que comprendre de cette situation? Le calendrier de retrait établi entre les parties est-il toujours tenable? Pourquoi le processus de retrait dans la région de Kidal est une entorse? Quelle stratégie pour les Fama pour récupérer les emprises non rétrocédées? Autant de questions que nous allons débattre avec nos invités, Lassana Keïta Diémé Césaire, professeur de lettres, analyse politique, Assim Dabo, enseignant-chercheur spécialiste des questions sécuritaires. Au téléphone avec nous, Yida Seydou Dial, spécialiste des questions de sécurité et de gouvernance. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et encore une fois, bienvenue à votre émission de débat Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Selon Fatouma Sinkou Kaba, porte-parole de l'aménagement, 5802 personnels de l'aménagement civils et militaires ont définitivement quitté le Mali dans le cadre du processus de retrait de la mission onusienne. Comment comprenez-vous alors ce retrait de l'aménagement depuis quelques temps dans le pays? Assim Dabo, la première question sera pour vous.
Merci beaucoup pour cet honneur et je salue les téléspectateurs. Et c'est toujours un grand honneur pour moi d'être ici. Et comme vous savez, la reconnaissance est le meilleur moyen pour avoir les faveurs divines. Donc je remercie aussi toute l'institution ISPRIC qui me permet de faire mes déplacements tout en restant chercheur à ISPRIC, l'univers des experts. À commencer par mon patron qui est M. Dafé et aussi le DG Dr. Mohamed Gakou. Vous savez, cette histoire de retrait est très très stratégique. Si vous voyez qu'aujourd'hui il y a des tensions, c'est tout simplement parce que le calendrier qui est mis en place n'est pas forcément dans les timings souhaités. Et le nombre que vous venez de dire, avec des gens qui se sont déplacés par-ci, par-là, c'est juste parce que sur le terrain, il y a trop de violence. Il y a trop de violence. Les gens ne partent pas parce qu'ils veulent partir. Les gens partent parce qu'il n'y a pas d'espoir là où ils vivent. Donc, le départ est comme une obligation. Personne n'aime quitter un endroit où on a fondé une famille. Donc, c'est les violences qui se passent sur le terrain qui font que les gens sont dans l'obligation de quitter, dans l'espoir encore que l'armée puisse revenir en puissance et réintégrer ces mêmes personnes qui quittent aujourd'hui. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif ne doit pas être de laisser les gens partir sans une possibilité de retour. Mais l'objectif est de tout mettre en place pour que les gens puissent retourner là où ils ont quitté. Sinon, nous allons avoir d'autres personnes qui vont s'ajouter à la population de Bamako ou dans ses environs. Et la vie sera très, très chère. Vous voyez la cherté de la vie aujourd'hui? C'est dû aussi à ces déplacements massifs qui font que les gens n'ont pas assez de revenus pour vivre. Et cela crée encore le banditisme et beaucoup d'autres. Ce qui peut amener d'autres jeunes encore à intégrer ces mouvances djihadistes-là pour pouvoir trouver quelque chose à manger ou survivre. Donc, je dirais que c'est déplorable, mais c'est les réalités du terrain qui fondent ces réalités-là.
Je le disais à l'entente de mes propos, le camp d'Aguelhok a été rétrocédé sans l'arrivée de l'armée malienne, chose qu'elle a déplorée via un communiqué. Monsieur Keïta, que comprendre alors à travers ce retrait anticipé de l'aménagement de ces zones sous contrôle des groupes armés sans l'arrivée de l'armée régulière?
Bon, merci Madame Maïga. Je vous salue, je salue aussi les directeurs, les fondateurs de Studio Tamani. Et je salue tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs. Alors, donc, c'est pas compliqué. Ça veut dire que ce que nous avions espéré avec l'aménagement n'a pas été le cas. Donc, c'est toujours un manque de confiance et puis c'est toujours de l'espoir trahi. c'est toujours un engagement trahi. Parce que, bon, ça veut dire que nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas fini. Parce que depuis le début, on se souvient. Hein? On se souvient, ça c'était donc avec Serval. Bon, l'entrée à Kidal, on a interdit Kidal à l'armée malienne. Bon, ensuite, on a vu tout ce qui s'est passé. L'amunissement aurait dû quand même combler les espérances en respectant les engagements, en respectant les calendriers établis. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que, alors, il y avait alors, un autre agenda. Mais on a beau cacher la vérité, bon, elle finit toujours par se manifester à l'évidence. Et je pense que bon, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, que l'amunissement, ce retrait aurait dû se faire bon, dans la paix, dans la confiance retrouvée. Parce que le Mali n'est pas un pays belliqueux. Non, non, non. Nous avons toujours cherché bon, vraiment à vivre en symbiose avec tout le monde, non seulement à l'intérieur, mais avec nos voisins. Mais vraiment, ce n'est pas ce qu'on a vécu. Bon, CD, vous avez dit, bon, sur 12 emprises, bon, 7 ont été cédées comme ça, mais pas souvent de gaieté de cœur.
Mais sauf que, M. Voilà. Keïta, on sait que certains camps ont été rétrocédés. On a vu le cas de Ber qui a été rétrocédé sous tension. Oui. Ensuite, il y a eu le camp d'Ogosagou, de Menaka également. Voilà. Et ces camps ont été rétrocédés. Mais sauf que arrivé dans la région de Kidal, il y a une entorse dans le processus.
Dans le processus.
Qu'est-ce qui se cacherait, selon vous, dans cette situation dans la région?
Mais Mariam, tout est parti de Kidal. Nous n'oublions pas. Bon, que tous les problèmes du Mali, depuis l'indépendance, c'est Kidal. Alors, et rien n'est plus caché. Hein. Bon, on sait que alors l'armée malienne n'y était pas. Le gouvernement malien n'y était pas. On nous a chassés de chez nous. Alors, cela veut dire que tout ce qu'on a concocté, alors, donc vraiment, les autorités maliennes n'étaient pas au courant. Bon, c'est ce qui fait que, bon, c'est la guerre qui continue. Bon, et on ne comprend pas. Donc, ceux qui avaient les groupes armés, ceux qui avaient mené la guerre de rébellion, ben, on a dépassé ça, on a signé eu les accords d'Alger. Mais après, ben, on réalise que entre les terroristes et les rebelles là, mais il n'y a pas de différence. Hein. Il n'y a pas de différence. Donc, cela veut dire qu'il y avait des agendas cachés, il y avait des calendriers cachés. Le plus important étant d'aboutir à la sécession du pays. Parce que Kidal est au cœur de cette sécession-là. Et on sait que la communauté internationale, la communauté dite internationale, parce que c'est ça, il y a des concepts flous. Il y a des concepts flous bon, qui ont été concoctés dans le but de nous noyer. Alors, donc, nous, on ne peut pas du tout comprendre qu'après un certain temps, une certaine accalmie, alors que vraiment les choses se passent. Mais, alors, donc, on place notre pays en situation, nous sommes obligés, parce que nous ne voulons pas de la guerre. Mais notre territoire, c'est notre territoire. Hein. Donc, l'armée a le plein devoir et la pleine responsabilité, donc, vraiment, de prendre tout ce qui nous appartient. Et vraiment, je pense que c'est ce qui est attendu.
Merci beaucoup, M. Keïta, pour vos mots d'introduction. Seydou Yida Seydou Dial, vous participez à cette émission par téléphone. Vous êtes spécialiste des questions sécuritaires et de gouvernance. Bonsoir.
Oui. Bonsoir.
Vous venez d'entendre vos co-débatteurs. Je vous poserai également la même question. Selon vous, qu'est-ce qui justifie ce retrait précipité de l'aménagement de certaines localités, notamment dans la région de Kidal?
Ok, je salue tout le monde et je salue les téléspectateurs et puis je salue les collègues que j'ai pas eu la chance de connaître parce que je suis en train d'intervenir à distance, surtout au téléphone. Et en parlant du retrait précipité de l'aménagement dans la zone du Kidal, surtout plus précisément, on parle d'Azerop aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'aménagement est là depuis un bon moment. Alors, la mission, quand on essaie d'évaluer la mission de l'aménagement, on peut vraiment qualifier ça en quelque sorte d'une manière d'un échec. Parce que tout ce qu'ils ont fini faire, bon, vraiment, on n'a pas eu de résultats positifs dans le sens global. Donc, raison pour laquelle on a demandé même le retrait de l'administration, parce qu'on pensait que c'était une mission qui était là pour servir le pays. Donc, si on se rend compte que la présence de cette mission n'a pas une utilité comme on le souhaite, donc l'État malien a demandé à ce que la mission se retire du pays. Donc, il y avait un calendrier établi pour le retrait de cette mission. Et c'était aussi un retrait progressif d'un point à un autre. Et là, on a vu ce qui s'est passé à Ber, au moment où vraiment l'administration voulait se retirer. On a vu ce qui s'est passé entre le CEMA et l'armée malienne. Et puis encore, ce qui fait la particularité de la zone de Kidal, plus précisément de Menaka et d'Agelhok, c'est des zones où opère le groupe armé État islamique, et qui est un groupe aussi vraiment très violent. Il se peut aussi qu'ils vont profiter de cela pour partir, pour vraiment éviter des affrontements contre ce groupe. Et puis encore, peut-être leur technique ou leur tactique, c'est de retirer de cette zone avant même l'arrivée de l'armée malienne pour garder sa neutralité. Parce qu'il était prévu qu'on doit remettre ces camps à l'armée malienne. Et c'est ce qui s'oppose aussi le groupe de signataires qui est le CFP-CMA. Donc maintenant, il se peut que la MINUSMA va se voir un peu gênée de remettre les clés de ces camps à l'armée malienne. Et pourquoi pas partir avant l'arrivée de l'armée malienne ni de CMA pour qu'on dise, bon voilà, la mission a gardé sa neutralité, malgré que Agelhok se trouve dans le territoire malien. Parce que selon les Maliens, le Mali est unique. Mais pour les groupes qui réclament l'indépendance de cette zone, ils pensent qu'aujourd'hui, ce n'est pas à l'armée malienne d'occuper ces zones. C'est à eux d'occuper ces zones qui sont sous leur territoire réclamé. Donc, raison pour laquelle, pour eux, le départ de l'AMINUSMA n'est pas un problème. Mais si l'AMINUSMA doit partir, il faut que le contrôle de ces zones, le contrôle de ces points occupés par l'AMINUSMA devienne quelque chose à laquelle l'État malien s'oppose. Parce que pour l'État malien, il n'y a pas des armées légitimes dans un État unitaire, donc raison pour laquelle on préfère à ce que l'armée malienne revienne dans ce camp. Donc maintenant, si la MINUSMA se précipite à partir, d'une part, on peut qualifier ça d'une trahison parce qu'il y a un pacte quand même, un accord entre l'armée malienne et la MINUSMA, c'est pourquoi la MINUSMA est venue. La MINUSMA se trouve dans le territoire malien, comme dit Bamako, mais même si du côté CMA, ils pensent que la MINUSMA se trouve dans leur territoire réclamé pour l'indépendance. Donc maintenant, la MINUSMA aussi peut jouer ses techniques ou bien ses jeux pour vraiment dire, bon voilà, nous on est parti, on n'a pas attendu l'arrivée de l'armée malienne pour remettre la clé à l'armée malienne et on n'a pas aussi remis les clés ou bien la base ou bien le camp au CMA. Donc là, nous on reste neutre, on n'est pas à jouer le jeu de qui que ce soit. Donc, je pense que c'est ce qui a fait.
Excusez-moi. Oui. Entre-temps, l'armée malienne a également affirmé que ce départ précipité met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité dans la région de Kidal. En quoi cela peut-il être une menace pour la sécurité et la stabilité dans cette région-là, ce départ précipité aujourd'hui?
Ok. Si la MINUSMA part, alors que l'armée malienne n'est pas arrivée sur le lien, vous savez que la nature aurait du vide. Le groupe qui est là, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs groupes qui opèrent. Il y a le CSP qui est composé de CMA, de groupes signataires. Il y a l'État islamique au Grand Sahara. Il y a aussi Junim qui est affilié à Al-Qaïda. Tous ces groupes sont dans cette zone. Et chaque groupe aussi est puissant. Et une puissance militaire, une puissance de fait. Donc si la MINUSMA part, il y aura un vide qui va rester. Et chaque groupe va vouloir vraiment se positionner pour montrer sa force. Et comme ça, ça peut même jouer sur le retour de l'armée malienne sur la zone. Parce que quand la MINUSMA est partie, le vide a régné. Donc maintenant, chaque groupe va vouloir s'opposer pour prendre le contrôle. Donc parce que c'est que les gens doivent comprendre un peu, le conflit qui se passe aussi, c'est le conflit de conquête territoriale. Parce que chaque groupe veut avoir un territoire qu'il va contrôler, qu'il va gouverner. Raison pour laquelle, si la MINUSMA part d'une manière très spéciale, sans que l'armée malienne, sans que l'État malien soit au courant, donc ces groupes qui sont dans cette zone, chaque groupe va vraiment essayer de conquérir cette zone qui est désertée par l'armée des quatre blés qui occupait la zone. Raison pour laquelle ça pourra même rendre difficile le retour de l'armée malienne sur le terrain. Parce que vous savez que les routes sont souvent minées. À qui ? Par les groupes djihadistes. Donc si la route est minée, alors qu'on sait que aussi la CMA a une force, une force qui peut vraiment descendre des avions. Donc dans ces cas, s'il n'est pas facile d'aller par les airs, s'il devient difficile d'aller par la terre, alors que la population est là, entre des groupes armés, donc vous voyez qu'est-ce que ça donne. Parce qu'on dit que les groupes armés qui ne sont pas, comme le disent les juristes, les groupes armés qui ne sont pas légitimes, ne sont pas souvent sous le contrôle de leur chef hiérarchique. Donc ça, c'est un peu élevé. Donc si vraiment il n'y a pas de contrôle dans les groupes armés qui se battent comme ça, et ça peut être vraiment un danger pour la population. Et la population peut manquer de beaucoup d'assistances, telles que les assistances humanitaires, médicales, à nous, et beaucoup de choses. Raison pour laquelle, vraiment, ce n'est pas une chose souhaitable le départ précipité de l'aménagement dans cette situation, de la manière dont ils sont partis.
Merci beaucoup, M. Dial. Vous gardez la ligne pour la suite de cette émission. Assim Dabo, dans un communiqué, l'aménagement a également affirmé qu'elle serait obligée, avec ce départ-là, de détruire certains équipements faute de moyens de transport. Selon vous, est-ce réellement la solution? Parce que je ne sais pas également ce que dit également les textes de l'ONU par rapport à cela.
Ok. Et ce que moi j'ai envie de dire avant de répondre à votre question, mes collègues viennent de dire des choses qui sont très très intéressantes. Vous savez, il faut savoir que le départ précipité de l'aménagement est prémédité. Il faut le dire haut et fort.
Prémédité. Qu'est-ce que vous dites que c'est prémédité?
Tout simplement parce qu'ils sentent que les intérêts qui les ont amenés dans cette zone stratégique-là, ces intérêts-là sont menacés. Maintenant, si leur
Quels
départ...
Quels sont ces intérêts-là?
Par exemple, sur le plan de la géopolitique ou de la géostratégie, vous savez très bien que Kidal n'est pas un endroit comme ça. Il y a beaucoup de richesses. Et dans cette même zone, il y a beaucoup de trafic. Et c'est-à-dire, les richesses qu'eux, ils arrivent à contrôler de par ces trafics-là, de par cette richesse-là, dont ils ont un œil pour l'avenir... Il y a des menaces. Et ces menaces-là, ils sentent que le 31 décembre 2023, peut-être qu'ils ne seront plus là. Puisque la nature a horaire du vide, il va falloir changer l'agenda et mettre d'autres stratégies en place pour pouvoir perturber ce processus-là. Dans cet élan de perturbation de ce processus, votre question vient, qui est le fait de savoir comment nous allons faire pour pouvoir assumer, c'est-à-dire tout ce que les Occidentaux sont en train de faire. Parce que pour moi, l'aménagement, c'est l'Europe. Pour moi, l'aménagement, ce n'est pas seulement la France. Celui qui pense que l'aménagement, c'est la France seulement, se trompe. La France a des partenaires. Et tous ces partenaires-là ont un œil, depuis les États-Unis, sur les richesses de Kidal. Donc, ils vont toujours avoir au siège de l'ONU des observations, des critiques pour essayer de dire « Ah, nous, on est toujours là pour vous protéger », alors que ce n'est pas pour nous protéger. On sait comment on doit se protéger nous-mêmes. On est assez grand. Notre armée monte en puissance. Mais s'ils ne respectent pas leur engagement, comment on va pouvoir occuper ces zones-là? Le fait de ne pas vouloir nous donner ces zones-là dans les meilleures conditions, c'est parce qu'ils ne veulent pas tout simplement quitter. C'est la même chose qui se répète. L'histoire se répète toujours. Regardez le cas de l'Algérie. Lorsque les Français ont quitté l'Algérie, ils ne voulaient pas. Donc, c'est la même chose. Ils veulent quitter, mais en laissant un vide qui ne sera pas occupé par d'autres puissances, comme la Russie. Puisque eux, ils n'ont pas bien fait, ils n'ont pas bien assumé leur mission, on sera obligé d'appeler d'autres partenaires, de gré ou de force. Et je suis sûr, si l'armée maintient sa dynamique, nous allons récupérer ces zones-là, même si l'aménagement part sans pour autant nous donner ces zones-là. Ils n'ont qu'à partir. Nous allons régler ça entre nous. Parce que la guerre a atteint un niveau où il n'y a plus de retour possible. Et on se doit de continuer. Sinon, quand vous observez les décrets au niveau de l'ONU et tout, vous allez voir que nous sommes dans la norme. Mais ils ne sont pas dans la norme. Quelqu'un qui ne respecte pas son engagement n'est pas dans la norme. Et au vu et au su de tous, la France ne respecte pas ses engagements vis-à-vis du Mali. L'aménagement ne respecte pas ses engagements vis-à-vis du Mali. Qui a amené l'aménagement au Mali? C'est une question qu'on doit se poser. Qui a amené l'aménagement? Ce n'est pas la France. Qui a amené ces armements-là? Pourquoi ils veulent détruire ces armements-là? Ce n'est pas pour détruire ces armements-là. Ils veulent juste laisser ces armements-là entre les mains des terroristes. Comme ça, quand on parle de destruction, nous, on va penser que c'est déjà détruit. Alors qu'ils vont aller donner ça
à ces mêmes partenaires qui alimentent la guerre au nord. Parce que si la guerre n'est pas d'actualité, ils ne pourront pas vendre les armements qu'ils ont créés à coups de milliards.
À vous comprendre, M. Dabo, il y a une connexion entre l'AMUNUSMA et les groupes armés dans la région du Nord, notamment à Kidal.
Une forte connexion, c'est comme mon cher aîné, mon père vient de le dire tout de suite. Vous savez, moi j'ai envie de vous poser une question. L'armée française est présente depuis des années au nord là-bas. On n'a jamais vu un affrontement direct, farouche, entre l'armée française et ces groupes djihadistes-là. Ça veut dire que la France s'érige en arbitre, observe et essaie de voir la position du vent. Si le vent tourne à son avantage, nous sommes là, nous on est là pour maintenir la sécurité, mais on n'est pas là pour faire la guerre. Mais dis donc, de qui se moque-t-on ? Comment pouvons-nous maintenir une dynamique de sécurité sans pour autant faire la guerre ? Vous êtes venus parce que la guerre est là. Et vous dites que non, vous êtes là pour maintenir la paix, mais vous ne voulez pas faire la guerre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et nous, aujourd'hui, on est assez intelligents, assez puissants sur le plan de la géopolitique pour comprendre ces manœuvres-là. Donc j'ai dit bravo à Ablaye Diop, M. Ablaye Diop, notre cher diplomate qui comprend ce jeu-là et qui arrive à partir petit à petit dans une bonne dynamique pour pouvoir cerner, c'est-à-dire cette complicité que la France veut mener et donner le nord à ceux qui sont à Kidal, parce que c'est ça leur partenaire. Nous allons maintenir cette dynamique de piéger la France dans son propre jeu. La France représente ou symbolise le coq, n'est-ce pas ? Vous savez, pour prendre le coq là, il faut toujours le cerner d'une certaine manière, jusqu'à ce que, depuis le fond là-bas, cac, vous prenez. Nous allons maintenir cette dynamique là, jusqu'à ce que nous allons avoir la victoire. La victoire est certaine par la grâce divine.
Monsieur Keïta, s'agissant toujours du transport de ces équipements-là, oui, selon vous, oui, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour mieux transporter ces équipements dits sensibles selon l'AMUNUSMA, ou ces matériels comportent-ils des risques pour le Mali s'ils venaient d'être remis aux autorités compétentes?
Mais en vérité, ça se comprend, Mariam, c'est qu'il y a une volonté délibérée de ne pas nous aider. Voilà. Et ce n'est pas une première. Rappelez-vous, alors, au départ des Français, après l'indépendance, dans des conditions similaires, parce que ça n'allait pas du tout. Il y a eu rupture avec la France. Mais tout ce qu'ils ne pouvaient pas emporter, ils l'ont jeté dans le fleuve Niger. Hein? Le premier conseil des ministres à Koulouba, du président Modibo Keïta, ce sont les gens de Dar es Salaam qui ont pris des chaises qui sont montées par le flanc pour leur permettre de s'asseoir. La Guinée, ça a été la même chose. Ils ont détruit et ils ont emporté. Donc, alors, s'il y a répétition, c'est parce qu'en vérité, ils ne sont pas là pour nous. Ils ne sont pas là pour nous aider. Donc là, ils ne veulent pas, dans les clauses, je crois, ces outils-là de défense-là devraient nous revenir, tout comme les emprises-là. Mais s'il choisit de faire autrement, donc vraiment, le jeu est facile à comprendre. Et ce qu'il faut retenir, c'est le jeune, il a dit, mais personne n'est plus dupe, hein, l'ère du paternalisme là est révolue. Nous, les Noirs là, nous ne sommes plus des enfants. Ça, c'est un vieux combat. Hein? Donc, MINUSMA, France, bon, les groupes armés là, les groupes terroristes là, tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose parce que c'est des gens qui œuvrent pour le même objectif, le même but. Bon, donc vraiment la partition. Alors, donc vraiment du Mali. Or, bon, vraiment, on voit. Hein? Alors, eux, ils mènent leur jeu, mais on a compris. Bon, je pense que l'armée s'est préparée en conséquence. Hein? L'armée se prépare en conséquence parce que c'est vrai, il n'y a pas de souveraineté facile.
Vous l'avez dit, ouais. L'armée se prépare en conséquence, et c'est-à-dire que le camp d'Aguerhok non rétrocédé sera occupé par l'armée malienne. Si oui, comment va-t-elle procéder ? Pour qui ? Parce qu'à Aguerhok également, il n'y a pas que les groupes armés, il y a également cette population civile-là dont il faut sauvegarder les vies.
Bon, là, c'est sûr. Bon, l'armée a sa stratégie pour entrer à Aguerhok. Moi, j'ai convaincu que, bon, là, ils vont céder. Ils vont céder ou bien les groupes-là, ils vont faire les frais. Hein, la population, bon, on a vu en Éphèse, hein, l'entrée de l'armée en Éphèse, on a vu, la population est restée tranquille, hein, on ne l'a pas touchée. Donc, si Et l'aménagement n'aide pas à pacifier, bon, vraiment ces zones, bon, sont à laisser alors une paix au Mali avec son départ, avec ses retraits. Bon, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Notre armée n'a pas le choix. Elle est chez elle. Elle est chez elle. Donc, si on ne cède pas de la manière la plus simple, mais elle n'a pas le choix, elle est obligée de faire la guerre pour prendre ce qui est à elle, parce que c'est le territoire. Personne d'autre ne doit posséder des moyens de défense autres que l'armée nationale. Hein? Mais dans notre culture, là, on dit qu'il n'y a pas, hein, une place pour deux rois sur une même peau. Alors, les territoires-là, la sécurisation du territoire, hein, c'est le rôle qui revient à l'armée nationale. Voilà. Les autres là, les mercenaires, parce que pour moi, Minusma, France, bon, Janine, tout ça là. Mais ce sont des gens qui nous amènent des mercenaires pour vraiment mettre les bâtons dans nos roues. C'est ça, donc il n'y a pas de... Moi, je dirais même que les groupes de terroristes là, qu'on appelle Janine, etc., etc. Non, 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 c'est leur appellation. C'est eux qui les ont fondés et c'est eux qui les entretiennent. Voilà.
Alors, hein? Votre argumentaire, la sécurisation du territoire revient à l'armée malienne, m'envoie vous poser cette question à tour de table. Je commencerai par Yida Seydou Dial. Concernant le camp de Kidal, Fatouma Sinko Kaba, la porte-parole de la mission onusienne au Mali, réitère que cette emprise va être rétrocédée à l'État malien, plus particulièrement aux autorités civiles. Je dis bien aux autorités civiles. Comment comprenez-vous cette hypothèse-là? Du moment où des emprises ont été rétrocédées à l'armée malienne, pour le cas spécifique de la région de Kidal, la porte-parole a laissé entendre que ça sera rétrocédé aux autorités civiles de la ville de Kidal. Monsieur Dial.
Oui, Madame Maïga, pour revenir un tout petit peu à ce qu'avaient dit mes prédécesseurs par rapport si l'armée va revenir à Guélop, cela est possible. Parce que qui connaît l'armée malienne aujourd'hui et les différences de l'armée malienne de 2012? Parce
Monsieur Dial, vous pouvez parler un peu plus fort en approchant le téléphone de la bouche, le son un peu bas.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, ça va. Allez-y.
Voilà. Donc, je voulais dire que pour revenir à ce qu'avait dit le SRC, toutefois, l'armée va retourner à Guélop. J'ai dit, bon, voilà, cela est possible, mais même si ça ne va pas être facile, parce que qui connaît l'armée malienne d'aujourd'hui et les différences de l'armée malienne de 2012, j'allais dire, parce qu'on se rappelle, en 2012, les trois grandes régions du Nord sont tombées en trois jours. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que l'armée, malgré ce qu'elle rencontre en cours de chemin, en progressant vers Kidal, elles n'ont jamais fait marche arrière. Donc, cela veut dire qu'elles vont toujours en avant. Donc, pour vous dire que c'est vrai, il est possible de récupérer le camp d'Aguelhoc, mais ça ne va pas être quelque chose de facile parce qu'il faut s'apprêter à tout. Il faut vraiment se tenir en homme pour pouvoir y aller. Parce que tous les groupes qui sont là, c'est des groupes aussi qui sont très bien préparés, c'est des groupes puissants, c'est des groupes qui sont très forts. Parce qu'on a deux groupes djihadistes qui sont l'État islamique au Grand Sahara. Il y a Al-Qaïda qui sont très puissants en hommes et en armement. Il y a aussi le groupe Touareg indépendantiste, le SEMA. Ils sont aussi là, ils s'opposent, ils vont toujours s'opposer. Et maintenant, pour revenir à la question, pourquoi la MINUSMA préfère remettre les clés aux civils et non aux militaires, et je pense que c'est toujours pour éviter le versement du sang, comme ça s'est passé peut-être à la récupération du camp de Ber, parce que on sait qu'à Ber, ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup des hommes, il y a beaucoup de sang qui sont versés, il y a beaucoup des hommes qui ont crié, donc peut-être des bruits des armes que la MINUSMA préfère peut-être faire la passation entre elle et les civils. Donc c'est toujours peut-être pour la MINUSMA, c'est pour garder la neutralité, pour ne pas qu'on dise, voilà, la MINUSMA a favorisé tel parti ou tel parti, et aussi pour éviter vraiment des conflits entre les groupes, parce qu'il y a l'armée malienne qui va vraiment vouloir prendre le camp par force, il y a aussi le CFP qui ne va pas vouloir faciliter la situation, mais je pense que si on dit, bon, voilà, maintenant, c'est vrai, l'armée malienne va revenir, mais comment? La question reste posée, mais il faut vraiment essayer de voir pour que la chose soit facile, pour que ça sauve, pour que ça passe vraiment dans une ambiance un peu moins tendue. Et je pense que l'administration peut-être va penser, si elle dit qu'elle va remettre ça aux civils, ça va vraiment baisser les tensions de deux côtés. Parce que même si on remet ça aux civils, à qui on va remettre? Le gouverneur de Kidal. Le gouverneur de Kidal est un Malien qui représente le Mali. C'est différent si on remet ça à quelqu'un du CMA ou autre. Je pense que c'est la raison pour laquelle l'administration veut procéder ainsi. Selon mon point de vue.
Alors, je reviens vers vous, M. Dial, le temps de poser la même question à vos deux co-débatteurs ici sur le plateau. M. Keïta, il vient de dire que l'aménagement veut quitter Kidal en paix, ne pas favoriser une partie par rapport à l'autre. Et mais vous, dans votre argumentaire, vous disiez que la sécurisation du territoire revient à l'armée malienne. Quelle est votre appréhension sur cette question de rétrocéder le camp de la ville de Kidal à des autorités civiles?
Non, moi, je n'y crois pas. Bon, il y a un jeu de dupes. Voilà. C'est-à-dire, parce que quand on prend, depuis le début, il y a eu des accords, il y a eu des clauses entre l'aménagement et les autorités maliennes. Mais là, je crois qu'on n'a pas parlé de rétrocéder Kidal à une autorité civile. Hein. Moi, je n'ai pas entendu ça. Alors, si c'est ce qu'on remet encore, c'est une façon de c'est une fuite en avant. Bon, ça veut dire que, bon, réellement, hein, on ne veut pas du tout faciliter les choses. Donc, voilà, c'est très clair. Hein. Mais, donc, en ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais Kidal est partie intégrante du territoire malien. Bon, je pense que, bon, si on va depuis le début de cette histoire, bon, la mission de stabilisation du Mali, bon, il n'y a pas de sécession là-dedans. On dit que le Mali reste indivisible. Mais en jouant de cette façon, donc on voit que c'est le contraire. Et c'est ça le problème de la communauté internationale. Elle fait une chose et son contraire. Elle dit une chose et son contraire. Et là, ce n'est pas de nature à faciliter les choses. Hein? Le Mali, c'est un pays mûr. Nous avons des responsables. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont la conséquence de l'évolution de ce pays-là, de l'indépendance en nos jours. Voilà. Donc, Abdoulaye Diop. Alors, on voit, c'est le même ministre des Affaires étrangères donc qui a servi Ibeka. Mais Abdoulaye Diop hier et Abdoulaye Diop aujourd'hui, c'est pas la même chose. Voilà. Parce que tout simplement, bon, les philosophes disent que l'être social, la conscience sociale, on ne pense pas de la même manière dans un château que dans une chaumière. Abdoulaye Diop est dans un autre contexte aujourd'hui. Donc, c'est un diplomate de carrière. Avant d'être ministre des Affaires étrangères. Donc, il connaît cette communauté internationale, il la connaît. Il a passé un bon moment à l'ONU là-bas. Donc, il connaît. Moi, je pense que ça ne nous trompe pas. Ça ne nous trompe pas. C'est l'armée qui est la mieux, qui est désignée vraiment pour entrer, pour prendre la place de l'aménagement. La sécurisation de la population lui revient de droit. Et les Maliens ne sont pas des génocidaires. Il faut qu'on dise ça. Bon, parce que tout ça, là, c'est des prétextes. Hein? On a dit des choses que non, si on rentre à Kidal, là, on va... Hé, hey, ces Tamachèques, là, ce sont nos parents à nous. Il n'y a rien entre ces Tamachèques de façon générale et nous. Mais il y a ceux-là qui sont nourris, entretenus, donc vraiment par la communauté internationale, qui nous créent des problèmes. Bon, et là, en ce moment, on sait à quoi s'en tenir.
Voilà. Assim Dabo, la même question. Le camp de la ville de Kidal est rétrocédé à des civils.
Vraiment, je suis très content qu'il y ait un tour de rôle pour avoir des réactions par rapport à ça. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Une mission. Vous savez que quand on dit mission en français, là, on va parler en français pour que les Français puissent mieux nous comprendre dans leur propre langue. Une mission est, c'est-à-dire, à une limite. Une mission a une fin. Quand ils sont venus, ils ont commencé leur mission, ils n'avaient pas de date et ils étaient venus pour rester. Donc, la mission doit prendre fin. Ils sont en colère. Et pourtant, la mission là, quand tu accomplis ta mission, tu retournes chez toi. Et si tu n'arrives pas à accomplir la mission aussi, on renégocie les termes. Mais il n'y a pas eu cela. Donc moi, je vais vous dire, ce n'est pas sérieux de la part de l'AMINUSMA de dire qu'eux, ils veulent laisser... C'est-à-dire, cette zone-là, aux civils. Comment les civils vont pouvoir sécuriser la zone? Ce n'est pas sérieux. Et pour éviter les bains de sang, c'est pour même provoquer les bains de sang et nous amener à courir. Ensuite, revenir pour dire, ah, revenir nous aider. Vous savez, on pensait qu'on pouvait, mais on ne peut pas. Nous, on ne va pas faire ça. On préfère mourir que de jouer à ce jeu-là. Moi, j'ai envie de rappeler quelque chose que Shogel nous a donné, nous a aidé à nous dire lors d'une conférence. Le Mali de cette citation-là n'est pas le Mali d'aujourd'hui. Je vais vous rappeler ce qu'il disait. Et ça faisait rire, mais c'est très, très intéressant. Il dit, auparavant, notre armée, c'était, je cite, « l'armée des terres a foutu les camps à l'air et l'armée de l'air est tombée à terre. » Nous, on n'est plus dans ça, là. Notre armée de terre est valable et notre armée de l'air est valable. Et avec une bonne synergie entre ces deux forces-là, une bonne stratégie et des dispositifs en place, nous allons récupérer toutes les zones qui nous reviennent des droits. Il faut que ça soit clair. C'est un jeu. Comment vous allez laisser un camp à des civils qui n'ont que des lance-pierres pour se défendre? Mais, madame la présentatrice, de qui se moque-t-on? Nous ne sommes plus dans ça là. On a lu des livres qu'eux-mêmes ils ont rédigés sur l'art de la guerre. On a eu à suivre des conférences sur des stratégies qu'eux-mêmes ils ont utilisées pour développer leur pays. Nous allons faire de même pour notre pays.
Merci beaucoup Assim Dabo. Il nous reste 9 petites minutes pour clore cette émission. Yida Seydou Diallo, avec tout cela, est-ce que l'installation de l'armée va être facile?
S'il vous plaît.
Avec tout ce qui se passe actuellement dans la région de Kidalou, le processus est devenu une entorse pratiquement. Est-ce que l'installation de l'armée va être facile dans les autres emprises?
Madame Maïla, vous savez, avec la situation actuelle, avec les tensions qui se trouvent entre les groupes armés et l'État et l'armée malienne, dire que l'armée va se retrouver là-bas facilement, c'est trop dit. C'est pourquoi je pense que, d'après mes prédécesseurs, si l'administration remet le camp aux civils, c'est pour encore créer d'autres tensions. Bon, raison pour laquelle je vous ai dit, bon, vous savez que le Kidal, c'est le Mali. Et l'armée malienne doit aller partout au Mali. Donc maintenant, si l'administration remet les clés aux civils, c'est à l'armée malienne de montrer ses pouvoirs et ses forces, comme a dit mon prédécesseur, que l'armée de l'air et l'armée de terre aujourd'hui sont sur leur position. Donc c'est l'armée malienne qui va aller là-bas et récupérer. Et dire que ça va être facile, non, je ne pense pas. Parce que les autres aussi se sont positionnés pour eux, la prise du camp, c'est leur objectif. Donc quand il y a quelque chose en jeu, c'est sous forme d'une coupe. Si par exemple deux équipes se disputent d'une coupe, ce ne serait pas facile vraiment pour aucune partie, aucun camp vraiment de retrouver facilement. Selon mon avis, ça ne doit pas être facile.
Alors, ça ne va pas être facile, mais parlons actuellement de la situation de Kidal. On sait qu'il y a une situation de méfiance dans la région de Kidal. Et si l'armée s'installe, est-ce qu'elle pourra se familiariser facilement avec cette population civile-là?
Oui, mais ceux qui sont à Kidal sont des Maliens. Et je pense qu'il n'y a pas, comme il a dit, bien dit, il n'y a pas de guerre entre l'armée malienne et la population malienne. Donc s'ils partent à Kidal, cohabiter avec ces gens ne doit pas être difficile. Étant donné qu'ils sont tous des Maliens, il y a des familles qui sont ici à Bamako, il y a des familles Bamako qui sont à Kidal. S'ils partent là-bas, ils sont saisis. Donc dire qu'il y aura une cohabitation difficile, là, je ne crois pas. Parce qu'ils se connaissent déjà, ils ont cohabité dans le passé, ils cohabitent toujours. Et chaque jour que j'ai fait, il y a des gens qui quittent ici pour aller de l'autre côté, il y a des gens qui quittent de l'autre côté pour venir ici. C'est la famille, quoi. C'est la famille en quelque sorte, donc je ne pense pas que la cohabitation soit difficile. Maintenant, c'est que je pense qu'il ne va pas être facile si toutefois les groupes armés du Nord aussi vont s'imposer. Maintenant, la prise. Mais si, même là, si les groupes armés du Nord acceptent et qu'il y a eu un compromis entre eux, je ne pense pas que ça ne va pas être difficile. Ils peuvent avoir un compromis même demain parce qu'ils sont toujours là. Malgré qu'il y a des tirs entre les deux groupes, malgré tout ça, il y a aussi des choses qui se passent. Même hier, on a vu ce qui s'est passé au ministère de la Réconciliation. Les groupes se retrouvent pour essayer de discuter, pour essayer de revenir à la raison. Et même demain, si les armes cessent de crier, l'armée peut retourner à Kidal sans problème, sans souci. Ça dépend. Voilà.
Monsieur Keïta, je vais vous poser la même question, mais autrement. Cela fait près d'une décennie que la population, les populations notamment du nord du Mali, plus particulièrement celle de Kidal, cette population vit en contact permanent avec les groupes armés. Que faut-il aujourd'hui pour réconcilier l'armée régulière, l'armée malienne avec cette population civile-là?
Non mais, Mariam, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je ne me fais pas tellement de soucis pour ça. Parce qu'on sait qu'il n'y a jamais eu de problème entre l'armée et les populations civiles du Nord. Jamais. Et les problèmes ont commencé avec un peu avant les indépendances, hein, avec cette idée de partition de notre pays. Hein. Bon, mais vous voyez, ceux qui ont pris le flambeau de la sécession, mais ils ne représentent pas grand-chose. Donc vraiment, leur impact sur la population, c'est plutôt le terrorisme, c'est la violence. Les gens ont peur. Bon, quand on prend le nombre de la population du Nord, et par rapport à ceux qui impriment la terreur, mais vraiment, il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas comparaison. Donc, il n'y a pas de problème, mais c'est l'Occident, c'est l'opinion, c'est la communauté internationale qui exhibe des idées génocidaires comme... C'est pas vrai. C'est pas vrai. À l'indépendance, tout a été mis en œuvre. Je vais vous dire une chose. Sur nos cartes d'identité, on écrivait hérité de la colonisation, l'ethnie. On mettait l'ethnie. Mais il y avait, après l'indépendance, on a supprimé ça. Et vous avez vu, tout a été mis en œuvre pour la symbiose entre les populations du Nord et du Sud. Et l'armée était, en fait, une garantie de ça. Hein? Elle a œuvré. Vous ne pouvez pas imaginer l'œuvre de Dibi Sylla Sidiara à Kidal, parce que c'est lui qui était gouverneur à Gao. Hein? Après la rébellion de 63. Mais Dibi, c'est lui qui a fondé, hein, et la foire annuelle de Kidal. Mais vous ne pouvez pas imaginer le succès que cela a eu. Mais ça, c'est l'armée, ça. Donc, ça, on ne s'inquiète même pas de ça. Ce sont les Blancs-là qui sont en train de pourrir l'atmosphère, de pourrir l'opinion.
Merci beaucoup. À vous, voilà. Comprendre que cette comprendre vos propos, cette cohabitation va être facile entre l'armée et cette population civile. Oui. Une dernière question, le temps de clore cette émission. Tour de table, je commencerai par M. Dial. Comment faire aujourd'hui pour coordonner les actions pour que l'armée malienne puisse occuper les emprises, les 12 emprises que la MINUSMA va laisser au Mali? Comment combler?
Bon, pour répondre à cette question, je pense qu'elle était vraiment bien posée, si elle était posée à un militaire. N'oubliez pas que M. Dial est un civil, donc...
Mais vous êtes spécialiste des questions sécuritaires et de gouvernance, oui. Je suppose que vous avez votre petite idée sur la question.
Oui, et je dis, bon, voilà, maintenant, pour vraiment pouvoir coordonner cela, il faut vraiment qu'il y ait une bonne communication. Une bonne communication entre les équipes qui vont faire l'opération. Donc, tant que la communication passe, la coordination va être bonne. Mais tant qu'il n'y a pas une bonne communication, il n'y aura pas une bonne coordination. C'est là mon point de vue.
Monsieur Keïta, comment l'armée doit faire pour occuper toutes les emprises de la MINUSMA?
Bon, d'abord, comme on l'a dit, nous allons mélanger. Il faut... et associer plusieurs techniques. Bon, l'armée malienne, c'est une armée nationale. Alors, donc vraiment, elle n'a pas vocation à préférer une partie de la population à une autre. Non. Donc, en ce moment, il y a la quête de la paix. Il y a la quête de la paix. Il y a la stratégie. Moi, je sais que ceux qui gouvernent aujourd'hui, alors, donc, vraiment, c'est des gens qui ont beaucoup étudié. Donc, ils connaissent les stratégies. Donc, d'abord, il faut la carotte et le bâton. Donc, tant qu'on veut aller à la paix, mais il n'y a pas de problème, c'est pas la paix, nous ne ferons pas la guerre. L'armée ne fera pas la guerre pour ça. Mais si, alors, il n'y a pas de choix, c'est depuis nos anciens, on dit...
Merci. On ne fait la beaucoup, guerre que Monsieur si elle Keïta, s'impose. La technique me dit que c'est presque terminé. Voilà. Le temps de donner la dernière parole à M. Dabo. La carotte et, le bâton pour vous également, pour coordonner ces actions-là.
Moi, je dirais tout simplement que l'armée est déjà prête. Mais il faudra tenir compte d'un seul aspect. Je l'ai dit dans l'autre émission, pour conquérir un territoire, il faut d'abord conquérir les esprits. Il faut conquérir les esprits. C'est ce qui fait dire que la familiarisation avec la population là ne sera pas aussi facile. Mais si on arrive à conquérir les esprits, faire savoir à ces populations-là que nous sommes là pour leur bonheur, nous allons y arriver. Sinon, la coordination et la synergie entre l'armée de terre et de l'air va faire que ces groupes-là vont foutre les camps à l'air.
Merci beaucoup et c'est sous vos mots que va prendre fin cette émission du Grand Dialogue qui réfléchissait sur le thème retrait de l'aménagement, tension autour du processus dans la région de Kidal. Cette émission a été réalisée par Imirana Kilumaiga. Grand merci à nos invités, Lassana Keïta, Diémé Césaire, professeur de lettres, analyse politique, Assim Dabo, enseignant-chercheur, spécialiste des questions politiques, au téléphone, Yida Seydou Dial, spécialiste des questions sécuritaires et de gouvernance. À la régie son et vidéo, il y avait Mamadi Keïta et Mamadi Keïta et Gagné Kanté. Je suis Mariam Maïga. Grand merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.